Entretien avec Gilles Le Gardinier, Paris, novembre 2013.
Gilles Le Gardinier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez du monde du cinéma. Peut-on dire que votre passé sur les plateaux et dans l'écriture de scénarios a influencé votre écriture en participant à rendre l'action plus visuelle et cinématographique dans vos livres ?
Je ne sais pas si je suis capable d'analyser les choses aussi précisément que ça. Je suis venu au cinéma parce que j'avais envie de partager des émotions avec un public. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une distance toujours entre l'écran et le spectateur qu'il n'y a pas entre un livre et un lecteur. Vous prenez la plus grande star du monde, quand elle est face à ses fans, il y a toujours une distance. Alors que quand vous êtes un auteur même modeste, quand vous êtes face à des lecteurs, ils vous ont épluché, lu, connu, analysé, et vous leur appartenez. Ils vous ont traîné dans leur sac à main, dans leur toilette, sur leur table de nuit. Il y a une proximité qu'il n'y a pas. Et donc, en fait, pour moi, l'écriture était un média plus proche des gens, ce qui me correspond. Mais à la base, pour moi, c'est le même métier, c'est transmettre une émotion. Juste le média change. Et je me suis exprimé au cinéma parce que, d'abord, j'ai travaillé en cinéma, parce que c'est une façon collective de faire naître l'émotion et que j'avais pas le sentiment que je pouvais le faire tout seul. J'ai pas été élevé en recevant l'idée que le monde m'attendait et qu'il était évident qu'on allait s'intéresser à ce que je faisais. Donc pour moi, le cinéma, c'était faire partie d'une équipe qui, elle, était compétente et qui allait pouvoir me donner le moyen de participer modestement à cette éclosion d'émotions. Et puis, à force de travailler sur des histoires où je me disais « c'est quand même diaboliquement nul », je me suis dit « si tous ces gens osent, je vais tenter ma chance ». Et voilà pourquoi j'ai osé écrire.
Et il y a un événement particulier qui vous a justement fait basculer vers l'écriture du livre ?
Presque la colère, en fait. La colère de voir le public du cinéma trompé par des histoires dans lesquelles on ressort toujours les mêmes histoires et les mêmes grosses ficelles. Et ça me fatiguait. C'était vraiment un ras-le-bol en tant que spectateur assidu, moi qui aime vraiment le cinéma. J'en avais assez de me faire avoir par des films qui méritaient même pas d'être vus, quoi. Et du coup, ça a été me dire, mais à un moment, si tout le monde essaye, je vais quand même tenter de faire de mon mieux. Ça ne veut pas dire forcément bien, mais de mon mieux.
Et on vous a connu au départ par l'écriture de thrillers, notamment L'Exil des Ganges, par exemple. Comment fait-on pour passer au genre très différent de la comédie romantique ?
Alors, le thriller, moi, c'est mon genre de prédilection au cinéma parce que je déteste m'ennuyer. Donc même s'il y a d'autres cinémas que j'aime, hein, le cinéma d'auteur me passionne, il y a des choses... Enfin, j'aime bien piocher ce qu'il y a de mieux dans tous les domaines, j'ai pas d'exclusivité, mais le thriller, c'est le genre, on va dire, le plus populaire pour moi, le plus facile. Parce qu'il y a un mélange d'action, on peut y mettre de l'humour, on peut y mettre du sentiment, c'est vraiment très large. Donc naturellement, de ma culture cinéma en tant que spectateur, j'ai décliné là-dessus... Et en fait, mon deuxième thriller, après Nous étions les hommes, qui avait plutôt bien marché, mes camarades qui me connaissent bien, mes proches, m'ont dit « Mais pourquoi t'écris pas ? C'est bien ce que t'écris de sérieux, mais pourquoi t'écris pas un truc aussi stupide que ce que t'es, quoi, grosso modo ?» Je n'ai pas changé d'amis, ce qui est un signe de grand cœur, quand même. Et j'ai osé me dire que je pouvais écrire quelque chose de peut-être plus humain, plus intime, plus léger et peut-être plus drôle, mais ça, j'ai pas de regard dessus.
Une question que l'on doit souvent vous poser, c'est comment un homme arrive-t-il si bien à se mettre dans la peau de cette jeune femme et de toutes ses copines et à retranscrire les pensées féminines avec tant de justesse ?
Alors, ça, j'aime bien cette question-là, parce qu'en fait, le métier d'un auteur, c'est quand même de se mettre dans la peau de personnages qu'il n'est pas. Tous mes valeureux camarades que j'aime beaucoup, qui écrivent des tueurs psychopathes, n'en sont pas forcément. Et il y en a même dans la littérature française qui écrivent des gens intelligents et qui n'en sont pas non plus. Mais, et donc, en fait, à la base, il faut d'abord observer, aimer un petit peu. Et puis, vous constituez quand même la moitié de la population de la Terre. On vous observe. Parfois, on en voit plus que ce que vous croyez. Et au début, cette histoire-là, je l'avais envisagée d'un point de vue masculin. Et en fait, une histoire d'amour d'un point de vue masculin, c'est beaucoup plus simple. On se raconte moins de trucs, c'est on veut pas, on peut pas. Mais grosso modo, le livre aurait fait 6 pages et à la page 4, ils auraient été au lit, je pense. Donc voilà, ça c'était, en caricaturant, c'était l'approche masculine. Par contre, en passant d'un côté féminin, quand on voit ce qu'une femme est capable de faire, de douter, de réfléchir, d'imaginer, d'espérer, de donner, on vous arrive pas à la cheville là-dessus. Donc c'est un ressort, un potentiel de comédie qui est juste énorme. Donc je suis passé en me disant je vais tenter de l'écrire d'un point de vue féminin. Et puis c'était très drôle. C'était génial de se glisser dans la peau d'un personnage juste en me basant sur ce que j'ai pu observer depuis que je suis gamin. Et j'observe beaucoup, j'aime ça. Et du coup, c'est devenu presque un jeu à écrire et un bonheur, quoi. C'était vraiment drôle.
Vous aviez, justement, vous dites que vous observez beaucoup les choses autour de vous. Vous gardez des carnets d'observation. Comment se passe l'écriture pour vous?
Alors, j'ai beaucoup d'idées tous les jours. Le lendemain, il y en a 99% qui, heureusement pour tout le monde, ont disparu. Et quand il y en a une qui s'accroche, un peu comme un embryon, un peu comme une graine qui prend, je la laisse vieillir. Et quand au bout de 6-8 mois, elle me revient régulièrement, je me dis que ça vaut peut-être le coup que j'y fasse attention. Et là, je commence à nourrir de petites choses, commencer à penser à des personnages, à des émotions, à des choses qui pourraient se passer, à des scènes, des petits détails parfois. Et au bout d'un an ou deux ans, quand elle est toujours là et nourrie, je me dis que ça peut peut-être faire quelque chose de sérieux. Et après, je laisse mûrir, et après, c'est vraiment l'ordre. Et quand c'est, pour moi, l'écriture n'est vraiment que la phase de concrétisation. C'est-à-dire, je sais où je vais, je me laisse surprendre par l'écriture, il faut se laisser cette ouverture-là et ce plaisir. Mais par contre, je sais vraiment où je vais, je sais si ça vaut le coup de l'écrire ou pas pour moi.
Et ce personnage de Julie, justement, il vient d'où ?
C'est vraiment une fusion de toutes les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes, parce que je l'ai situé à un âge charnière où sa situation est la plus probable. Mais il y a des femmes de 45 ans qui sont dans l'état de Julie parce qu'elles ont une rupture et qu'elles sont en attente, qu'elles sont en curiosité, en demande d'affect. Il y a des jeunes filles plus jeunes à qui ça arrive. C'est vraiment un condensé de tout ce que j'ai vu chez les femmes qui sont un peu perdues et qui ont un potentiel colossal que personne n'a encore remarqué.
Donc c'est plus un mélange que quelqu'un vraiment que vous connaissez, c'est plus quelque part le mélange de plusieurs
c'est
portraits
une fusion,
de femmes que vous avez.
Je ne prends jamais ni d'anecdotes réelles, ça ce sera pour mes mémoires, ce sera le pire, mais je ne prends jamais d'anecdotes réelles ou je ne copie jamais de personnages. Parce que même si écrire c'est voler, c'est restituer ce qu'on a observé avec peut-être une valeur ajoutée, mais je ne veux pas piller des gens, c'est un truc, ça me choque.
À propos du passage de votre livre en livre audio, on vient de vous faire écouter un petit passage justement de la lecture qu'en a fait Ingrid Donadieu. Que pensez-vous que la lecture à haute voix puisse apporter à votre ouvrage, qui prend déjà le parti d'une écriture très vive et finalement assez orale? Est-ce qu'à l'écoute de votre texte, vous avez été surpris?
Non, parce que je l'entends mon texte quand je l'écris. C'est-à-dire que moi, les situations, je les vis en écrivant. Donc, elles sont déjà vivantes. Donc, Ingrid apporte quelque chose de... C'est déjà une incarnation. J'aime sa voix, j'aime ce qu'elle apporte. Pour moi, c'est... à la limite, le livre audio est la seule version incarnée qui, pour moi, peut respecter la place de l'imaginaire du lecteur. Parce que même si on fait une adaptation, ce qui est en route du livre, un film bloque déjà le physique des gens. Or, une des choses qui, je pense, a bien fonctionné par rapport au livre, c'est la capacité des lecteurs et des lectrices à se projeter dans les personnages. Et dès que vous incarnez physiquement à l'image, vous bloquez ça. Si vous êtes brune et que vous l'imaginez brune et qu'elle est blonde, ça vous correspond plus. Alors que là, la voix, vous avez déjà la sensualité de l'existence, de l'incarnation, mais vous n'avez pas la limite physique. Donc pour moi, c'est une étape qui est importante, qui est très, très qualitative par rapport au texte. Et en l'occurrence, de ce que j'ai entendu, c'est juste superbe, quoi. Il y a le ton, le rythme, j'aime ce que j'ai entendu.
Oui, ça garde la place à l'imaginaire.
Complètement, complètement.
Voilà, on vous raconte une histoire.
Tout à fait, ça permet à la lectrice ou au lecteur de se projeter dans ce qu'il entend.
Parlez-nous un peu de vos projets. Après Complètement cramé et Soudain tout change, avez-vous de nouveaux livres en tête? Et si oui, dans quel genre? Est-ce que vous pensez retourner au polar ou...
Alors, je suis en train d'écrire ma prochaine comédie qui va s'appeler Ça peut pas rater, qui est l'histoire d'une vengeance de femme. Je rigole beaucoup en l'écrivant, parce que c'est ce que j'avais dit au moment de Demain j'arrête, je ne connais pas de créature plus puissante qu'une femme amoureuse, mais je ne connais pas de créature plus dangereuse qu'une femme qui veut se venger. Donc les deux étant concomitantes, c'est assez réjouissant à écrire. Et par contre, à partir de 2015, je repasse au thriller, j'alterne, le prochain thriller est écrit. On pensait le sortir là, très vite, mais en fait, comme la comédie me prend énormément de temps, la rencontre des lecteurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, des libraires, des lecteurs, on laisse passer un an, mais au printemps 2015, prochain thriller.
Et vous auriez justement une ou deux anecdotes à nous raconter de rencontres avec votre public que vous, voilà, vous avez l'air de tenir beaucoup justement à cet échange.
Ah, j'y tiens énormément. Moi, je travaille pour le public. Je sais pour qui je travaille. C'est vraiment mon rêve, c'est d'être dans les chambres des gens ou dans les salons des gens ou et de leur murmurer au cœur ou à l'oreille au moment où ils ont le temps, où ils ont envie d'être là à leur disposition, prêt à leur raconter une histoire. Mais moi, c'est vraiment, j'ai un côté compteur au coin du feu, je ne suis pas en recherche d'ego, j'essaie pas de prouver, j'essaie pas de me soigner, tout va bien, j'ai juste envie d'aller vers les gens et de partager quelque chose avec eux. Donc, honnêtement, cette recherche, elle est permanente, c'est vraiment ce qui me guide. Donc après, tous les moyens seront bons pour aller vers le lecteur à partir de choses qui seront sincères. C'est-à-dire, dès que j'aurai plus d'histoire à raconter ou dès que je le sentirai pas, je ne le ferai pas. C'est toujours étonnant. Le plus beau compliment que j'ai eu, c'est une dame de 84 ans qui me l'a fait avec Demain J'arrête. Elle m'avait envoyé un message via mon site. Elle m'a écrit que pendant qu'elle avait lu le livre, elle avait eu à nouveau 20 ans. Ça m'a, voilà. Mais tous les matins, en ouvrant ma boîte mail, je pleure de joie, d'émotion, parce que les gens sont juste, il y a un retour sur les trois livres qui est juste extraordinaire, quoi.
Le titre de votre livre est Demain J'arrête. Et si demain, vous deviez arrêter quelque chose, ce serait quoi ?
Alors, pour le coup, c'est pas quelque chose que je dis, hein, parce que je suis assez raisonnable comme garçon. Et puis alors, on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un. Je crois que les garçons disent moins ça que les filles. Parce qu'on a une faculté à se mentir, à s'arranger, à s'amender, et à se dédouaner, que vous n'avez pas. Et du coup, vous prenez des décisions, vous remettez en cause, vous êtes capable d'avoir des espèces de plans quinquennaux sur votre vie qui ne marchent pas toujours, soyons clairs, que nous, on n'a pas. Donc du coup, le côté, c'est plus au moment de ras-le-bol qu'on dit « là, ça suffit, je ne le ferai plus ». Mais vous avez une capacité à réfléchir les choses, à prendre un recul et à théoriser les choses que nous, on n'a absolument pas. On est plus concret, plus simple. Et du coup, je me suis jamais dit « demain, j'arrête ». Je crois, hein, je crois pas, honnêtement, je crois pas, non. Je crois pas.
Gilles Le Gardinier, merci beaucoup.
Merci, c'était un plaisir.